Ouais, salut Daniel, c'est le collectif des étudiants du travail social de Franche-Comté. On profite du répondeur de l'émission de Là-bas si j'y suis pour te dire que ça bouge du côté des futurs travailleurs sociaux. En effet, le gouvernement a mis en place un décret le 31 janvier 2008 dans la continuité de la loi sur l'égalité des chances de 2002. Ce décret rend obligatoire la gratification des stages de plus de 3 mois dans le secteur privé. Nous sommes pour ce décret. En revanche, il est inapplicable. En effet, les institutions qui nous accueillent n'ont pas les moyens de financer. Le gel des terrains de stage est la situation actuelle. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités quant à l'application de ce décret. Nous vous faisons part de la manifestation nationale le 30 avril. Avec une mobilisation. Merci, au revoir, on est chaud. Voilà.
Oui, bonjour Patrick de Loire-Atlantique. Pour les auditeurs qui sont pas convaincus de l'ineptie des franchises médicales, il y a un site internet sur lequel vous pouvez y aller. C'est le SMG, le syndicat de la médecine générale, où nous avons fait une analyse approfondie sur le reste à charge des familles depuis 30-40 ans, et qui montre que effectivement le trou de la sécu est politiquement construit. Voilà, donc allez jeter un coup d'œil, SMG, sur Internet. Ciao, bye.
Bonjour Monsieur Mermet, bonjour aussi à tous les auditeurs. Encore une fois, je constate que vous faites une entreprise de décérébration monumentale. En effet, vous réécrivez l'histoire et vous ne donnez la parole qu'à tous les révisionnistes qui sont proches de vos opinions. Car en effet, je le rappelle, c'est Pierre Laval qui, en 1935, avant le Front Populaire, a organisé et créé la première sécurité sociale en France. Dont acte. Bien sûr, vous ne diffuserez pas ce message, puisque vous préférez faire l'apologie d'une sorte de socialisme à visage humain. Bien à vous, je resterai néanmoins un fidèle auditeur, attendu que c'est avec l'argent de mes impôts qu'on vous paye. Au revoir.
Non, Daniel, je sais plus si je dois brancher mon poste à 15h ou pas. Une envie irrésistible fait que mes doigts vont tourner le bouton de la radio pour écouter là-bas si j'y suis. C'est maintenant devenu une drogue. Et en même temps, les sujets sont tellement révoltants, tellement vrais, tellement justes que ça m'énerve. Et l'autre qui dit que dans cette émission, il n'y a pas de débat contradictoire. Mais le fait est que dans l'immensité de boue et de pensée unique, tous les autres médias, et en tout cas toutes les autres radios, sont déjà le contradictoire. Alors l'îlot que représente Mermet et ses amis est bienvenu dans cette contradiction. Cette contradiction trop rare face à une politique impérialiste. S'il vous plaît, continuez d'enquêter, continuez de contredire, continuez de critiquer, toujours dans ce sens qui nous fait comme un bout de ciel bleu au milieu des horreurs. Quant à mai 68, le seul souvenir que j'avais 12 ans à cette époque, c'est mon prof de maths en 5e qui nous a fait observer une minute de silence en hommage à l'étudiant mort la veille. C'était un moment grave et je me souviens de ce prof. Vraiment, il nous a fait vraiment ressentir ce moment-là. On était vraiment solidaires. Voilà, bonne journée et merci Daniel Mermet. Continue comme ça.
Avis de recherche. Où sont passés les 54% de votants pour Sarkozy? 72% des Français mécontents de leur président au bout d'un an. Pourtant, on en a bien vu quelques-uns la semaine dernière à l'hôpital de Neufchâteau. Et que nous a annoncé notre président en matière de santé? Pas grand-chose, on le sait déjà. On va crever, nous, les petits hôpitaux, de voir nos médecins partir dans le privé, de voir nos services fermer les uns après les autres. Bon, on aura toujours du boulot, faut travailler plus pour gagner plus, et surtout renflouer les caisses. Car pour un petit voyage présidentiel en province, il faut plusieurs avions, la voiture présidentielle transportée de Paris par un camion, plusieurs quarts de CRS et j'en passe sûrement beaucoup. Je ne suis qu'une petite infirmière d'un petit hôpital. Fonctionnaire et mère de famille nombreuse, je cumule. Et tous les jours, je me demande bien ce que notre super président va nous inventer pour nous gâcher un peu plus notre quotidien. En France, on n'a pas de pognon. Enfin, pas pour tout. Mais on a de grandes idées. Enfin, pas tout le monde. Merci Daniel pour votre espace de liberté.
Bonjour, j'appelle de Vendée. Je viens d'écouter votre intéressante émission sur la sécurité sociale. Je voudrais apporter un complément. Je suis un médecin et j'ai longtemps milité dans une association issue de mai 68 pour l'accès aux soins des patients. J'ai été travailler 4 ans en Angleterre dans un hôpital universitaire et j'ai pu constater que les listes d'attente étaient beaucoup plus longues qu'en France pour les maladies, je dirais, moyennement graves. Par exemple, du laser pour un risque de décollement de rétine ou un traitement des cancers. Mais par contre, pour les urgences vitales, les délais sécurité comparable à chez nous. Les assurances privées là-bas, non pas complémentaires, mais la prise en charge est complète, vont de 75 euros à 25 ans à 500 euros par mois après 65 ans. Et elles ne prennent plus en charge les conséquences des maladies chroniques après 10 ans d'évolution. Au hasard, pour le diabète, c'est le moment où on commence à avoir des complications. Et si vous voulez payer vous-même, la médecine privée est très très chère, car en comparaison chez nous, la sécurité sociale rembourse toujours une partie de la médecine, même privée. Pour moi, il n'y a pas photo, il faut nous battre pour défendre notre système de sécurité sociale contre les assurances privées. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Merci à vous pour ces deux jours sur les franchises médicales. Alors, je voulais un peu témoigner de ma propre histoire. Il y a ma mère qui a eu un accident vasculaire cérébral et en août dernier. Un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une veine du cerveau, une artère du cerveau qui se bouche, et donc une partie du cerveau n'est plus irriguée. Depuis ce jour-là, elle est invalide à 80%. Donc voilà, déjà forcément un coup dur, surtout quand on le réalise en plus. Ça fait que pour ça, elle a besoin d'avoir des aides à domicile, d'une hauteur de 5 à 6 heures d'aide par mois. Ma mère et ma famille n'avons jamais été dans la catégorie des gens de la classe sociale des pauvres, comme on dit. Elle a une retraite de, pour, sans vous cacher, entre 1500 et 1800 euros par mois. Mais ça n'empêche pas que malgré ça, elle doit encore mettre 1000 euros par mois pour pouvoir rester chez elle, pour pouvoir un peu plus apprécier la vie que qu'être mis dans des mouroirs, ce qu'on appelle, ce que je veux appeler des mouroirs, ces maisons de retraite là, où on met des gens comme ça, on met des on met les personnes âgées qu'on veut plus voir chez nous, qu'on veut plus supporter, tout ça. Donc voilà, 1000 euros par mois. Alors vous imaginez, en plus, parce qu'elle a des médicaments, alors imaginez un peu 50 centimes par boîte de médicaments, plus les consultations, plus tout ça. Comment on va faire? Je vais devoir abandonner totalement ma vie pour rester à domicile avec elle, pour pas qu'elle ait à payer ses 1000 euros par mois, et pour pas que je sois obligé de la mettre dans un mouroir, alors que ce sera à l'État lui-même de prendre en charge ça, la santé de ses citoyens. Alors merci à Daniel Mermet et toute son équipe de rappeler un peu qu'actuellement en France, la santé, même pour 4 euros par mois, pour des personnes, ce n'est pas possible. C'est tout. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup. Mais vous savez, en matière de solidarité, on déplore de plus en plus la disparition des solidarités, surtout envers les personnes âgées, comme cet auditeur vient de le signaler. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous prenez quelqu'un comme Monsieur François Sérac, ancien patron du CNPF. C'était le CNPF à l'époque, c'est-à-dire l'ancêtre du MEDEF. Eh bien, voilà quelqu'un qui, jusqu'à quelques jours, percevait chaque mois, en liquide, dans une enveloppe en papier, en craft, une petite somme de 5000 euros comme complément de sa retraite. Et ça dure depuis des années, puisque Monsieur François Sérac est aujourd'hui âgé de 95 ans. Et depuis des années, depuis 1959 exactement, Monsieur François Sérac, ex-patron du CNPF, je le rappelle, est gracieusement logé par lui-même dans une villa au milieu d'un parc tout à fait charmant, au Vésinet, dans la banlieue agréable, très très agréable, de Paris. Qui nous a dit ça? Eh bien, c'est le pétulant DGS, Denis Gauthier Sauvagnac, qui l'a courageusement dénoncé au juge chargé de l'enquête sur les 600 millions de la caisse noire de l'UIMM. L'UIMM, je vais prononcer ce mot souvent, c'est pas facile à prononcer. C'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. C'est un mot vous avez entendu souvent et qui va nous préoccuper à partir d'aujourd'hui. C'est une enquête menée par le camarade Renaud Lambert sur, eh bien, les oubliés de la fraude sociale. Je tiens à préciser, concernant Monsieur François Sérac, qu'il n'est pas le seul à avoir bénéficié de cette solidarité. Elle met simplement le nom de ses petits camarades n'ont pas encore été divulgués. J'espère que ça vous remonte un peu le moral de savoir quand même qu'il y a un peu de solidarité dans ce pays. Ça fait exactement 107 ans que ça dure. Ça fait 107 ans que l'UIMM a été fondé en 1901 et toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, tient par ma voix, à s'associer à Madame Laurence Parisot. Oui, nous sommes, Laurence, nous sommes derrière vous. On peut même dire, on est tellement solidaires que nous pouvons dire que nous sommes derrière toi, Laurence, pour faire le ménage dans les écuries d'Augias. Mais tout ce que je dis là, eh bien, on va le comprendre peu à peu. Je sais très bien qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui n'a pas compris ce feuilleton, de quoi il s'agit, de quoi on parle. Eh bien, on va reprendre toute cette histoire, une heure d'une histoire qui dure depuis 107 ans. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel, salut à toute l'équipe, c'est Jackie. Voilà, je voulais juste rappeler par rapport à l'émission sur le déficit de la Sécu, quelques chiffres. Donc retard de paiement sur les taxes liées au tabac, 7,8 milliards d'euros. Les taxes sur l'alcool non reversé, 3,5 milliards d'euros. Les taxes retirées sur les assurances auto non reversées à la Sécu, 1,6 milliard. Taxes sur les industries polluantes non reversées, 1,2 milliard. La TVA destinée à la Sécu et qui n'a pas été reversée, 2 milliards d'euros. Les retours de paiement sur les contrats aidés non versés à la Sécu, 2,1 milliard. Et enfin, les retards de paiement des grosses entreprises, 1,9 milliard. Voilà. Donc, ce qui fait 20,1 milliards d'euros que la Sécu devrait avoir et qu'elle n'a pas. Et ces chiffres sont tirés du rapport des comptes de la Sécu. Voilà. Allez, bon courage à tous. Salut.
Salut les AMG. Un petit message du repère de Dole dans le Jura pour vous donner le programme local de cette fin de semaine. Alors, jeudi 24, à partir de 19h30, notre repère d'Aulois au bar Le Connemara. Vendredi 25 à 20h30 au cinéma de la MJC de Dole, projection du film J'ai très mal au travail et lancement du premier forum social de Dole. Samedi 26 de 14h à 23h à Dole, aux Arquebusiers, première journée de ce forum social. Il y aura des stands associatifs, des projections de films, des conférences débats sur l'écologie, la finance et sur le nucléaire. Et une soirée festive avec apéro, repas et concerts. Dimanche 27, seconde journée du forum, toujours aux Arquebusiers à Dole, de 11h30 à 17h, avec des conférences débats sur le marché du travail, la mondialisation et sur l'immigration. Si vous souhaitez de plus amples informations sur ce premier forum social d'Aulois, rendez-vous sur le site web d'Attaque Jura. Voilà, bonne journée à tous, ciao.
Bonjour les AMG, le prochain repère de l'entrepôt à Paris dans le 14e arrondissement aura lieu lundi 28 avril à 20h. L'entrepôt, c'est le bar qui est à côté du cinéma entrepôt au 7 rue Francis de Pressensé dans le 14e arrondissement de Paris. La date, donc, c'est lundi 28 avril à 20h et le thème, c'est la décroissance heureuse. Voilà, venez nombreux. Merci.
Bonjour, je vous appelle pour vous informer que le repère de Montpellier se tient ce vendredi 25 avril à 20h au bar Le Dôme qui se trouve à l'angle de l'avenue de Clémenceau et le cours Gambetta. Venez nombreux et à bientôt. Au revoir.
Oui, salut Daniel, Sylvain de la Haute-Savoie. Un petit mot pour te dire que le premier repère créé en Haute-Savoie va fêter ses 1 an d'existence. Donc par ce biais-là, nous fêtons les 1 an au Bar Fleury à Servant le 29 avril, mardi soir. Et donc on espère que vous viendrez nombreux pour fêter les 1 an d'existence du premier repère de Haute-Savoie. Allez, bonne journée, salut.
Une caisse noire de plusieurs centaines de millions d'euros au sein de l'UIMM.
C'est aussi quelque chose que probablement beaucoup savaient inconsciemment.
À quoi servait cet argent?
Dans l'après-midi, c'est Yvon Gattaz, ancien patron des patrons, qui affirmait:
valise de billets pour acheter selon lui la paix sociale. Et il n'y a pas que les syndicats. Le monde politique aurait également profité des largesses des fédérations patronales.
Au-dessus de tout soupçon, tout soupçon. Et je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose.
L'enquête continue.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert. Fluidifion.
Flight number 2, arriving from...
L'Union des métiers de la métallurgie est en effet au cœur d'un scandale financier qui est unique par son ampleur dans l'histoire du syndicalisme. 19 millions d'euros distribués en liquide, dont on ne sait toujours pas précisément à qui et pourquoi. Alors, le nouveau président, eh bien, il s'appelle Frédéric Saint-Jour, il vient d'être écarté de la direction générale de Peugeot, et il arrive dans un très bon timing.
Écoutez, il y a eu l'UIMM avant M. Saint-Jour, et il y aura l'UIMM avec M. Saint-Jour, et après M. Saint-Jour. Donc, aujourd'hui, il faut mettre en place, et c'est ce qu'il est en train de faire, de la transparence, de la modernité. Il est en train de revoir les statuts, il est en train de rentrer dans une logique qui est tout à fait celle que nous avons déjà mise en place depuis quelques années au sein du MEDEF, et c'est tant mieux. Nous voulons travailler avec tout le monde et on ne veut plus regarder ce qui s'est passé. On veut en revanche construire l'avenir et regarder résolument devant.
Voilà, il faut tourner la page, il faut regarder devant soi, de la transparence, de la modernité. Comment Laurence, notre Laurence, a découvert ça brusquement. Elle est atterrée, elle n'en peut plus, elle est tombée de l'armoire, Laurence, quand elle a entendu ça. Eh ben, ça marche pas. Et elle a du travail. Et les gens du MEDEF ont du travail. Et le nouveau patron de l'UIMM, Monsieur Saint-Jour, a bien du boulot. Au moins, à en croire un sondage, un fabuleux sondage. Ce que ça vaut, dit, publié dans le quotidien L'Humanité du 19 mars. Selon ce sondage, CSA, 59% des Français ne font confiance ni à l'organisation patronale, le MEDEF, ni au gouvernement pour que les relations sociales soient en France plus transparentes. 64% ne croient guère à la version du MEDEF qui découvre soudain que depuis 30 ans, lui-même opérait des retraits en liquide pour fluidifier les relations sociales. Et en revanche, ils sont toujours ces sacrés Français, satanés Français, archaïques Français. Ils sont 55% à faire confiance aux organisations syndicales des salariés pour veiller à plus de transparence dans les relations sociales. Voilà pourquoi on est au MEDEF avec Renaud Lambert. Nous sommes toujours d'écouter de ceux qui ont des problèmes. Vous nous connaissez depuis des années. Quand quelqu'un comme Laurence Parisot et les gens du MEDEF sont en difficulté, ils peuvent compter sur là-bas si j'y suis. On va essayer de comprendre ce qui arrive à cette pauvre Laurence et à ces pauvres gens qui ont tellement de difficultés, eux qui se trouvent qui découvre soudain cette UIMM qui a été créée en 1901, donc ça fait 107 ans que ça dure. L'UIMM, c'est une fédération professionnelle qui regroupe les entreprises de la métallurgie, qui regroupe beaucoup d'entreprises, bien évidemment, beaucoup de fédérations professionnelles, et sauf que cette organisation qui est membre du MEDEF est la plus puissante au sein du MEDEF. Aujourd'hui, c'est Frédéric Saint-Jour qui en est le président depuis le 20 décembre 2007. Il remplace qui donc DGS, Denis Gauthier-Sauvagnac. Lapsus 68 ans, c'est DGS, Denis Gauthier-Sauvagnac, qui a démissionné le 23 octobre 2007 du poste de président, mais qui reste délégué général. Alors on va voir un peu quelle est l'histoire de cette UIMM aujourd'hui, qui a été créée en 1901 contre les syndicats ouvriers qui, alors, s'organisait, et on va essayer de comprendre comment cette affaire, qui vous vous en souvenez quand même, a éclaté en septembre 2007, a permis de découvrir que depuis ces années dernières, depuis 2000, l'UIMM dispose d'une caisse anti-grève qui a été créée après 1968, en 1972 exactement, et cette caisse anti-grève s'appelle EPIM, EPIM, Entraide Professionnelle des Métiers de la Métallurgie. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, de protéger les pauvres patrons face aux nombreuses grèves qui sévissaient à cette époque-là. Et cette caisse a été approvisionnée par des cotisations patronales, par 1800 entreprises à l'époque qui avaient très peur de ces satanés grévistes. Mais sauf que ça s'est un peu calmé. Ces luttes se sont calmées avec le temps. Et avec le temps, eh bien, entre les cotisations et les indemnisations et les intérêts de ces fonds placés, aujourd'hui, le pays, et lui-même se retrouve à la tête d'un petit magot de 600 millions dans les caisses. De ces 600 millions, monsieur Denis Gauthier Sauvagnac a fait certains dons à certaines personnes et ça a fini par intriguer un peu les autorités financières du pays. Ainsi, l'affaire a explosé en septembre dernier. Et depuis, eh bien, on suit passionnément ce feuilleton. On va essayer de se mettre au niveau et de comprendre comment tout cela a fonctionné, fonctionne. Et Laurence, on espère que ça va s'arrêter très bientôt.
Donnez-moi des grands vins et je monterai ma cave sur un tapis de guinqueur. Je me fais sur les caves roulantes dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la belle ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures, moi j'ai brassé des millions, ça fait comme un baron de la République. C'est évident que je souffre de forte improbité chronique. Les salaires de la belle ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les institutions qui m'éviteront d'aller traîner mon costard en zonzon serpent haut. Mille cent net, mon cœur est froid, mais ma tête bien droite sur mes épaulettes. Les salaires de la terre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire? Donnez-moi des grand vin et donnez-moi votre main, oui, donnez-moi un coup de main, je vous le rendrai demain.
Madame Parisot, quand est-ce que vous avez découvert ces pratiques?
Mais écoutez, moi j'ai découvert ces pratiques par l'article du Figaro. J'ai été alertée la veille de la publication de cet article par un journaliste la veille au soir qui m'a dit « Voilà ce qu'il va y avoir dans le Figaro en substance le lendemain ». Vous savez, il y a une chose que je trouve mais alors absolument désolante dans les comportements de ces messieurs. Ils sont censés représenter l'industrie. Moi je suis fille d'industriel, issue d'une grande famille d'industriels. J'ai moi-même dirigé une usine pendant un certain nombre d'années. Je trouve ça mais lamentable que l'industrie soit représentée par ces personnes-là. Et je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose, clairement et nettement, et vienne au contraire avec moi fonder, construire le patronat du 21e siècle.
Est-ce qu'on n'a pas atteint ce soir un point de rupture?
Non, il est évident que je ne veux pas tombé de Carib en Silla. Nous avons eu déjà un certain nombre d'affaires. Je veux que les personnes qui représentent toutes les entreprises de France dans des institutions paritaires soient au-dessus de tout soupçon.
Alors, on se trouve avec Éric de Couty. Éric de Couty, vous êtes grand reporter à Marianne, mais il y a encore pas très longtemps, vous travaillez au Figaro, et la raison pour laquelle on est venu vous voir, c'est que cette affaire UMM, ça commence un petit peu avec vous. C'est vous qui nous en avez parlé pour la première fois. C'était quand?
C'était le fin septembre 2007. Ça va avoir un retentissement absolument considérable, parce que ça implique le pouvoir politique, ça implique le patronat, ça implique des tas de gens. On est dans l'aberration, c'est démocratiquement extrêmement grave. Ils ont une caisse qui s'appelle l'EPIM, qui est censée être une caisse anti-grève, pour faire court, où les membres de l'UMM, les entreprises, les sociétés cotisent pour, en cas de pépin, une sorte de mutuelle. Caisse noire, parce que caisse noire au sens où elle n'est pas connue, elle n'est pas visible, elle n'apparaît pas dans les comptes et elle n'a probablement pas d'existence juridique. Donc, on est dans l'occulte. Ils ont cette caisse noire et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que cette caisse noire est riche d'abord de 300 à 600 millions d'euros. C'est une paille. Et on ne sait pas ce qu'ils en font. La seule chose qu'on sait de façon incontestée, c'est que depuis 2000, ils en ont tiré de cette caisse noire une vingtaine de petits millions, mais c'est quand même pas rien, et qu'ils les ont distribués. Que disent ou sous-entendent les dirigeants du patronat et de l'UMM ? Ils disent on a fluidifié les relations sociales. Alors, les relations sociales, qu'est-ce qu'ils sous-entendent ? Ils sous-entendent qu'ils ont arrosé les syndicats. Premier point. Deuxième point qui est soulevé par l'enquête, c'est qu'on suppose ou on soupçonne que des parlementaires ou des formations politiques ou des hommes politiques ont bénéficié du soutien financier totalement obscur, totalement opaque, totalement non déclaré de l'UMM. Ce n'est qu'un soupçon, mais ce sont des soupçons forts. Alors, il faut s'arrêter une minute. Aujourd'hui, il me semble être fondamental qu'on ait la vérité, parce que on ne peut pas croire que notre démocratie est saine si on a le soupçon que les accords sociaux sont corrompus par de l'argent liquide et que les textes parlementaires sont également corrompus.
Eh oui, voilà. Alors, évidemment, ce journaliste tout à fait héroïque, Éric de Couty, oublie quand même peut-être un peu d'indiquer que ça fait très longtemps que une certaine presse suit lui-même. Par exemple, en 1978, le Canard enchaîné publiait un bilan de l'aide apportée lors des législatives de 1973 par lui-même aux candidats qu'il avait envie de soutenir. Et ainsi, le Canard publiait un chiffre de 9 millions de journaux et revues, 2 millions d'affiches, 8 millions de tracts qui avaient été financés par lui-même. En fait, ça dure depuis 107 ans. Depuis 107 ans, mais précisément 107 ans, 1901-2008, ça fait 107 ans, lui-même est un groupe de pression, un lobby, c'est un mot qui s'emploie depuis peu en France, mais dont le système existe depuis très longtemps, en tout cas chez nous, qui est là pour influencer, et il faut bien employer le mot corruption. Éric de Couty continue de nous éclairer.
L'enquête va être ouverte et très vite, on va découvrir que c'est une vingtaine de millions d'euros que Denis Gauthier-Sauvagnac a retiré en liquide des comptes de l'Union patronale de la métallurgie et qu'il a distribué, on ne sait pas à qui. Sauf que la réalité est connue de longue date par, évidemment, les patrons, mais les politiques aussi. Qu'est-ce qu'on va révéler en novembre 2007, c'est que Tracfin, c'est une cellule d'enquête du ministère des Finances qui est chargée de traquer le blanchiment. On va découvrir que Tracfin a été informé par la BNP des retraits en liquide de monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac en mai 2004. Que le ministre des Finances de l'époque a été alerté quasiment aussitôt et que le ministre de l'époque, qui est Nicolas Sarkozy, a choisi d'enterrer le dossier. Que son successeur, il y a eu un intermède, mais pas sans son vrai, son successeur, qui est Thierry Breton, a été également informé et que le dossier a été enterré. Ce qui fait que de 2004 à 2007, les pouvoirs publics, en la personne de messieurs Sarkozy et Breton, ont été informés des opérations occultes de monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac et ils ont choisi délibérément de ne pas informer la justice. Donc ça, c'est la deuxième grosse révélation, c'est-à-dire qu'on a l'enquête sur les fonds et ensuite on a la démonstration que le pouvoir politique a délibérément choisi d'enterrer le dossier. Lui-même, c'est la première composante du MEDEF. Composante colossale, c'est toute la métallurgie au sens le plus large. Renault, Peugeot, tout ce qui a trait pour faire court à la tôle, d'une façon ou d'une autre, est présent dans l'UMM.
Et qui jouit d'un budget bien supérieur à celui du MEDEF.
Alors, ils jouissent d'un budget considérable, c'est les plus riches. Donc, le MEDEF sans l'UMM, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que se pose une autre question, c'est que à l'UMM, on sait que ces retraits sont effectués. Le pouvoir politique sait, on ne peut pas imaginer que le patronat, le CNPF, qui devient le MEDEF, ne soit pas au courant de ces opérations-là. Ça dépasse l'entendement. À l'époque, il y a Mme Parizeau qui dit, je crois que l'expression c'est, je suis tombé de l'armoire quand j'ai appris ça. Franchement, c'est pas crédible. On n'a pas de preuves qu'ils savaient, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que ces gens-là, qui sont des figures éminentes du patronat, que les patrons de, enfin, les dirigeants successifs de la métallurgie étaient aussi les patrons du MEDEF, ça n'est pas sérieux. J'ai franchement beaucoup de mal à le croire. Bon. Et puis, moi, j'ai aussi du mal à imaginer que les ministres des Finances, que sont messieurs Sarkozy, que sont messieurs Breton, madame Lagarde, dont on sait de façon absolument incontestable et incontestée qu'ils étaient informés depuis 2004, on a du mal à imaginer que ces personnes-là qui sont en lien direct avec les dirigeants du patronat n'en aient pas parlé. Faut être sérieux. Ces gens se parlent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On n'est pas obligé de les croire. En tous les cas, je ne les crois pas.
Ces révélations, ça me fait le même effet que ce qu'on appelle parfois les secrets de famille. C'est quelque chose que nous ignorions totalement. C'est aussi quelque chose que probablement beaucoup savaient inconsciemment. Donc nous l'ignorions pour l'UIMM et peut-être que nous sommes en train de l'ignorer pour d'autres. Je n'en sais rien.
Est-ce que vous avez vu l'exposition que nous avons fait des dessins d'enfants ?
Non, pas du tout. Commençons par là, alors, peut-être.
C'est quoi l'entreprise, ici ?
Alors là, on descend en escalier, oui. Et il y a écrit en lettres roses et violettes, c'est quoi l'entreprise ?
C'est quoi l'entreprise ? Alors, nous avons voulu afficher des dessins d'enfants qui ont été réalisés par une classe de 8 ans, je crois que c'était des enfants de 8 ans, et le sujet, c'était, qu'est-ce que c'est pour vous l'entreprise ? Alors, nous sommes dans le MEDEF national, dans le bâtiment qui se trouve avenue Bosquet. C'est vraiment un bâtiment qui est ouvert. C'est un bâtiment de rencontres, d'échanges, de débats. C'est vraiment un bâtiment qui vit.
Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît ?
Oui, je m'appelle Hélène Moulinari, je suis directrice générale adjointe du MEDEF. Et donc, je travaille aux côtés de Laurence Parizeau.
Alors, on est devant les dessins de ces enfants. Est-ce que vous pouvez m'en décrire qui retiennent votre attention ?
Alors, qu'est-ce que nous avons Ça, c'est une visiblement, c'est une usine de pots de peinture. Donc, on a les jaunes, les bleus, les rouges, etc., avec un grand accueil. Donc, on voit que finalement, l'entreprise est plutôt accueillante pour cette personne-là. Et alors, visiblement, celui-ci est parti aux États-Unis parce qu'il a écrit USA, USA.
Oui, alors, on voit là, il y a un des dessins où on a une usine un petit peu... Ça fait un peu 19e siècle, là, oui. Une grosse usine avec des fumerolles. C'est une série de triangles avec une fumée et qui sort... Le slogan du MEDEF, c'est l'entreprise, c'est la vie.
Oui.
Et lorsqu'on voit cette usine, en effet, on se dit que le petit garçon, la petite fille qui a dessiné ça, il doit pas vraiment avoir envie d'aller à cet endroit-là.
Oui, je crois que ça symbolise encore peut-être un peu Zola dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et je crois que ça, c'est un problème typiquement franco-français. C'est-à-dire que la représentation de l'entreprise, pour certaines personnes en tous les cas, n'a pas évolué ou n'a pas suffisamment évolué. Et c'est justement tout le sens de l'engagement de Laurence Parizeau, qui a mis au cœur de son mandat réconcilier les Français avec l'entreprise. C'est tout simplement pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est que l'entreprise. C'est pas forcément ces usines qui ont l'air d'être polluantes, qui représentent une caricature un peu passéiste de l'entreprise. Mais il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui dans les services. Et c'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où les gens peuvent s'épanouir. Et on ne le sait pas suffisamment.
Bon, eh bien, on visite un petit peu alors ?
Oui, on visite.
Et voilà, c'est chouette, non? La transparence, les dessins d'enfants. Bah oui, bien sûr, il faut oublier toutes ces histoires, vous savez, du monde ouvrier, les Zola et tous ces passéistes. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est chouette, on peut s'y épanouir, c'est très sympa. Et c'est Laurence. Laurence, c'est une candide. Elle a, pour l'entreprise, les yeux de ses enfants. C'est dire qu'elle a été sa surprise en apprenant les malversations de ces messieurs. Ces vieux messieurs qui datent justement de l'époque de la métallurgie, vous voyez, la métallurgie, la ferraille, enfin, toutes ces choses sombres avec des cheminées, des usines, avec tout ça est fini. Mais enfin, maintenant, ben, il reste à faire toute cette pédagogie et à faire comprendre tout ça aux Français. Et ce n'est pas un petit travail, oh non.
Alors, il y a un premier point, c'est comment est-ce qu'il était possible qu'au MEDEF, on ne soit pas au courant de la façon dont on procédait à l'UIMM. On sait que l'ancien président de l'UIMM, M. de Vavrin, a expliqué que selon lui, Mme Parizeau savait, que ça a mené Mme Parizeau à porter plainte pour diffamation. Éclairez-nous un petit peu sur cette opacité qui a subsisté encore pendant les trois premières années du mandat de Mme Parizeau.
Bah écoutez, Laurence Parizeau l'a expliqué à plusieurs reprises, les fédérations professionnelles, et l'UIMM est une fédération professionnelle et une grosse fédération professionnelle, ne sont pas des filiales du MEDEF, ce sont des adhérents du MEDEF. Donc nous n'avons pas la possibilité de savoir ce qu'il s'y passe, nous avons simplement la possibilité de travailler avec eux sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets sociaux en ce qui concerne l'UIMM, le mode de fonctionnement, les finances de ces organismes nous sont totalement étrangers. Donc toutes les pratiques, je dirais, qu'il y a eu il y a quelques années, on pensait que c'était des choses qui étaient totalement finies, parce que le monde politique a fait sa révolution de ce point de vue-là. On pensait que tout avait été fait également.
On parlait du financement des partis politiques.
Exactement, la clarification du financement des partis politiques. Donc c'est très difficile pour des personnes qui arrivent comme ça d'un monde économique normal, dans lequel nous avons des comptabilités très claire, très transparente, de pouvoir imaginer que des systèmes comme ça pouvaient encore perdurer de nos jours en 2007, en 2008.
Mais enfin, pourtant, transparence, compte clair, la possibilité pour le MEDEF de jeter un œil sur les comptes de l'UIMM était déjà inscrite dans les statuts du MEDEF, si je ne me trompe pas.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. En revanche, c'est ce que nous avons fait maintenant, c'est-à-dire que depuis que cette affaire est sortie, l'une des premières décisions qu'a prise Laurence Parizeau, c'est de modifier les statuts du MEDEF et de faire en sorte que tous les adhérents, maintenant, donc en 2008, puisque c'était en décembre, soient obligés de certifier leurs comptes pour pouvoir être adhérent. Donc c'est vrai pour l'ensemble des fédérations professionnelles, c'est vrai également pour l'ensemble des MEDEF territoriaux, et donc l'UIMM est en train de se mettre également en conformité par rapport à cette nouvelle règle.
La transparence financière, nous la demandons pour toutes les organisations professionnelles et interprofessionnelles, ça va sans dire, pour toutes les organisations syndicales et pour toutes les ONG. C'est-à-dire que nous demandons la transparence financière pour tous ceux qui prétendent contribuer directement ou indirectement à l'élaboration de l'intérêt général.
Mme Parizeau dit « beaucoup savaient inconsciemment ». Alors, il ne faut jamais oublier cette phrase. J'invite d'ailleurs de nombreux étudiants à se pencher sur le sujet pour faire des thèses sur le savoir inconscient collectif. Je crois que c'est un sujet d'étude qui mérite beaucoup d'approfondissement.
Pour moi, ça me fait l'effet de la révélation d'un secret de famille. Et donc, j'ai été d'abord en état de sidération l'ampleur de ces choses et en même temps avec le sentiment que inconsciemment, il y avait peut-être quelque chose qui résonnait dans ce qui pouvait être dit ici ou là. Mais moi, je ne sais pas les choses. Quant à l'expression elle-même, elle me semble ubuesque. La secret de famille, je ne sais pas les choses. Inconsciemment, il y avait peut-être...
Sidéré, voilà. Sidéré, elle a été la candide de Laurence, mais vous avez entendu quelqu'un ironiser, oui. Et celui qui ironise, c'est Gérard Filoche. Gérard Filoche, vous le connaissez, il est inspecteur du travail, militant syndical, et là, il vient de publier un livre, ce jour dernier, qui s'intitule « Les caisses noires du patronat, l'argent sale de l'UIMM au MEDEF ».
Elle a dit c'est un secret de famille honteux. Et elle a dit je me sens salie. Ça c'était au tout début. Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts pour se laver depuis 6 mois. À tel point que elle a dit oh on va rétablir la transparence. Mais moi j'ai vérifié les statuts du MEDEF. La transparence y était déjà. C'est-à-dire depuis 3 ans que Madame Parizeau était arrivée à la tête du MEDEF, les statuts prévoient qu'il doit y avoir une audition des comptes à partir des cotisations avant le 30 juin de chaque année. Qu'il doit y avoir un conseil financier du MEDEF qui vérifie les comptes de chaque fédération professionnelle et de chaque fédération territoriale. Et que ça se fait d'après les cotisations. Et que quand il y a un doute, c'est écrit noir sur blanc dans les statuts. Page 20, article 16, B et 17, C. Eh bien, quand il y a la commission de compte, c'est une commission de contrôle. Elle peut examiner les comptes de la fédération s'il y a un souci. Et c'est le président qui doit avoir cette tâche de suivre la commission de contrôle financier. Donc, Madame Parizeau, depuis 3 ans, elle est mouillée jusqu'au cou.
Ce que vous dites, c'est que si Madame Parizeau avait lu les statuts, elle aurait demandé à l'UIMM de lui montrer ses comptes. C'est ça, elle aurait dû le faire.
Bien entendu. Et de 2 choses l'une. Soit cette femme est incompétente. Et ne l'ayant pas fait, alors qu'elle avait l'obligation par ses statuts de le faire, c'est une faute professionnelle. Et vous savez, les employeurs, ils sont pas tendres avec les gens qui font des fautes professionnelles. Et donc, ça concerne Madame Parizeau, au premier chef, qui, au lieu de la ramener sur tous les médias, devrait s'introspecter et voir sa responsabilité de n'avoir pas assumé. Mais moi, je ne crois même pas à cette hypothèse-là. Je ne pense pas que dans le petit milieu, qu'est Gauthier Sauvagnac, qu'est Monsieur de Virville, qu'est Monsieur de Calan, et Madame Parizeau, je ne pense pas qu'il y ait d'ignorance. Je ne pense pas qu'elle ne savait pas. Qui peut croire qu'ils étaient et qu'elle était ignorante?
Un ancien président de l'UIMM, de Vavrin, a même dit qu'il était au courant d'une réunion entre Denis Gauthier Sauvagnac et elle, c'était sur France Inter, expliquant que pour lui, elle mentait aussi.
Je suis formel là-dessus, Denis Gauthier Sauvagnac m'avait dit longtemps avant les vacances que il avait eu un entretien avec Madame Parizeau et que ce sujet avait été évoqué et que il était évident pour lui que Madame Parizeau le savait.
Donc pour vous, Laurence Parizeau ment?
Oui, sur ce point précis, à mon avis, elle ne dit pas la vérité.
Je suis professeure d'histoire contemporaine à l'université de Paris 13. Je suis spécialiste du XXe siècle et de l'histoire de l'entreprise et du monde patronal.
Voilà, elle s'appelle Danielle Fraboulet, elle vient de dire son travail et son champ de recherche. Et elle va nous éclairer, Danielle Fraboulet, sur l'histoire de l'UIMM qui, je le rappelle, dure depuis 107 ans.
Alors, la raison pour laquelle on est venu frapper à votre porte, c'est que en creusant un petit peu ce qui se passait autour de l'UIMM, on s'est rendu compte que l'UIMM n'était pas tout récent et qu'en fait, cette organisation avait déjà plus d'un siècle. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est créé, pourquoi ça s'est créé et dans quel contexte ça s'est créé?
Alors, l'Union des industries métallurgiques et minières a été créée à la fin de l'année 1900, légalement en 1901, et elle est née tout simplement parce que il a semblé aux industriels de la métallurgie qu'il n'y avait pas d'organisation qui était capable de les défendre suffisamment, d'une manière suffisamment combative contre l'intervention de l'État et contre les syndicats ouvriers nouvellement créés, puisque la CGT, la Confédération Générale du Travail, a été créée en 1895. Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il s'agissait d'abord d'essayer de fédérer les industriels. Les industriels, par essence, étaient plutôt des individualistes et qui ne voyaient pas l'intérêt de l'Union. Donc, il fallait d'abord fédérer les intérêts industriels pour lutter contre la mise en place de la législation du travail. Puisque, durant tout le 19e, les industriels avaient réglé eux-mêmes ces relations professionnelles à l'intérieur de leur usine. Et ils ne souhaitaient pas d'ingérence extérieure. Là, visiblement, cette ingérence extérieure allait se mettre en place, dans le cadre de cette législation du travail, et ils n'en voulaient pas. Donc voilà pour quelles raisons ils ont décidé de s'unir dans une union des métallurgistes très combative. Alors, que fait cette organisation? Puisque l'État commence à intervenir dans le monde du travail, eh bien, il faut être d'abord très très bien renseigné. Pour être très bien renseigné, il faut être au courant de tous les projets de loi qui peuvent être déposés. Donc là, on fait jouer ses réseaux. Et quand on est au courant qu'un projet va être débattu, à ce moment-là, l'UMM va immédiatement faire des enquêtes. Eux vont avoir un rôle d'expert. Et très vite, ils vont se rendre d'une certaine manière indispensables. Ce ne sera que très progressivement que l'État va se doter d'outils statistiques. Mais dans les premiers temps, c'est l'UMM qui les fournit.
Alors ça pose la question évidemment de l'objectivité de l'expertise dans ces cas-là. Un expert qui est mandaté par l'UMM va-t-il arriver aux mêmes conclusions qu'un expert qui serait totalement indépendant, dans ce contexte-là, en tout cas à cette époque?
Alors évidemment, ces renseignements, on fournit ceux qui vont dans le sens de vos intérêts. Alors, il y a donc ce travail en amont dans les commissions. On essaye d'influencer. Ensuite, la loi passe. Une fois qu'une loi est passée, il faut faire les règlements d'application. Donc là, ça passe dans la haute administration. Et dans la haute administration, il se trouve que ces hauts fonctionnaires, très souvent, sont passés par les mêmes écoles, par les mêmes formations, que soit les permanents du UMM, soit même les industriels. Et avec les hauts fonctionnaires, ils vont parler le même langage.
C'est moins facile pour un délégué syndical de la CGT qui aura une culture, un capital social très différent.
Très différent, bien sûr. Donc, c'est important. Alors, il y a les règlements qui vont être édictés par l'administration. Et ensuite, bien sûr, là aussi, les entreprises doivent les appliquer. Et là, il y a les armées de juristes de l'UMM qui, éventuellement, peuvent donner des conseils.
Vous souriez?
Ben oui, je souris parce que, voilà, c'est on doit appliquer la loi, mais on peut respecter cette loi et l'appliquer au mieux de ses intérêts.
Vous voulez dire qu'entre le vote de la loi et sa mise en œuvre à travers les décrets d'application, le règlement qui l'accompagne, on peut légèrement la dévier si on a l'outillage juridique, et c'est le cas de l'UMM, pour influencer un petit peu?
La dévier, c'est pas le mot propre, l'interpréter.
Alors, là, vous nous décrivez une UIMM réellement au service donc, du monde de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des exemples où, au contraire, elle aurait été un outil tendant à contraindre le monde de l'entreprise, le patronat, à consentir des concessions? Je pense à l'exemple de 1936 où le rôle de l'UIMM aurait été crucial pour certains des accords. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est avéré?
Ah non, c'est pas du tout un mythe. D'abord, mais là, je pense que maintenant, ça se sait. Donc, l'accord Matignon a été demandé.
Alors, l'accord Matignon,
pour le... c'est en 1936, c'est-à-dire seront réunis à l'hôtel Matignon les représentants des ouvriers, les représentants des patrons et les représentants de l'État. Et donc, l'accord Matignon a été demandé par le secrétaire général de l'UMM qui s'appelait Lambert Ribot à l'époque, tout simplement parce que il y avait des grèves dans toutes les entreprises, il fallait se sortir de là. Et Lambert Ribot avait été auditeur, je crois que c'est auditeur, au Conseil d'État en même temps que Léon Blum. Donc il se connaissait. Donc il a contacté Léon Blum la veille en lui disant il faut absolument que vous organisiez une réunion pour qu'on puisse se mettre autour d'une table et parler. Et donc, d'une certaine manière, l'accord Matignon a été demandé par l'UMM. Et c'est eux qui vont discuter avec les représentants des syndicats ouvriers, de la durée du travail, des hausses de salaire, enfin, voilà.
Voilà. Alors, c'est effectivement un cas où, entre le représentant, le président de l'UMM de l'époque, Lambert Ribot, et Léon Blum, il y a une connivence. Mais c'est tout à fait exceptionnel, évidemment, dans cette histoire. Et avant tout, c'est les intérêts du patronat, en l'occurrence de la métallurgie, de tous les patronats, de tout le patronat qui prévaut. Et au cours de ces décennies et décennies, 107 ans, lui-même agira comme un lobby qui cherche à faire toutes les pressions possibles, par tous les moyens possibles, pour défendre ses intérêts et évidemment les développer. Daniel Fraboulet.
Au revoir, un petit peu de détail.
Alors là, vous nous avez expliqué un petit peu les moyens mis en œuvre par l'UIMM les plus légaux. Est-ce qu'il y a aussi des documents de l'époque permettant de voir qu'on a utilisé d'autres biais comme des caisses noires, chose dont on parle aujourd'hui, comme des financements de partis politiques ou même de syndicats ?
Il existait, depuis 1907, une caisse d'assurance contre le chômage forcé.
Qu'est-ce que vous appelez le chômage forcé ?
La grève. Ça s'appelait comme ça, la caisse d'assurance contre le chômage forcé. Et ils ont regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Il y avait déjà ces caisses qui, dès 1904, avaient vu le jour aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et ils ont repris cette idée.
L'idée, c'est qu'un entrepreneur perd de l'argent parce qu'il y a une grève dans son entreprise. On va l'aider à compenser pour les pertes grâce à cette caisse de... Voilà.
Comme l'assurance contre l'incendie. Alors, cette caisse contre le chômage forcé va durer jusqu'en 1972. Et en 1972, c'est François Sérac qui est président et qui va simplement la moderniser. Il faut voir que dans les années, la fin des années 60, le début des années 70, il y avait en Europe énormément de grèves. Hein, c'était la crise menaçait, il y avait un certain nombre de difficultés. Ça va devenir l'EPIM, l'entraide pour les industries métallurgiques. Et là, les cotisations vont être plus élevées. Et elles vont permettre de rembourser non seulement les frais généraux, la perte, mais également les pertes de production.
Donc là, on renforçait de manière significative la capacité du patronat de résister à des grèves.
Tout à fait. Et puis, il va se trouver que, avec la crise qui va s'installer, il y aura de moins en moins de grèves. Et les fonds qui vont être engrangés à ce moment-là à l'EPIM vont être placés, comme dans n'importe quelle société d'assurance. Si vous voulez, c'est pas véritablement une caisse noire. Ce n'est même pas une caisse noire, c'est une caisse que tout le monde connaissait. Et si vous vous reportez aux journaux de l'époque, en 1972 et autres, les Échos, la Tribune et autres, vous avez des tas d'études sur l'EPIM.
Donc cette EPIM, on la connaissait à l'époque, on en a perdu la trace, parce qu'aujourd'hui on nous a dit qu'on ne sait plus, on ne savait pas que ça existait.
Je ne vais pas polémiquer, mais je dirais que si on demandait aux historiens, ils le sauraient. Les journalistes, quelquefois, oublient.
Un jour, tout sera à toi. Les usines, les machines, les hommes. Mais sache qu'au moment de décider, tu seras seul. Tu ne pourras pas compter sur eux. Leur intérêt n'est pas le tien. Tous ces gens qui travailleront pour toi sont là pour exécuter, pas pour penser. S'ils se mettaient à penser, ils commenceraient à vouloir changer les choses. Et ça n'est pas dans leurs compétences. N'oublie jamais qu'ils te doivent tout.
Il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d'autres.
Mais oui, bien sûr. Tout ça va changer, la page va être tournée. Mais avant de la tourner, il faut la lire. Vous connaissez bien cette histoire. Donc on continuera de la lire demain, et parfois on la lira aussi un petit peu entre les lignes. Merci à tous, merci à Benoît Colombat, à Roland Museau, à Jean Charbonnel, à Daniel Fraboulet, à Éric Decouty. Merci également à Norbert Bauduru, Arnaud Delaunay, à Michel Auferlet, et merci également à Gérard Filoche. Je rappelle le titre de son bouquin sur ce sujet, Les caisses noires du patronat, aux éditions Jean-Claude Gavzevitch. Et puis le livre de Daniel Fraboulet, notre chercheuse, Quand les patrons s'organisent, aux éditions Septentrion. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et y faire des commentaires. Il y a tout des casiers réservés à vos appréciations, à vos commentaires, ainsi que sur labas.org, la-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission comme beaucoup d'autres. Et puis, on attend toujours avec plaisir vos messages et vos témoignages
sur mai 68. Je me souviens de mai 68. On en a déjà pas mal. On espère évidemment toujours avoir des témoignages. Je sais pas, j'étais CRS en 68. Ou bien j'étais à la manif, à l'Arc de Triomphe, le 30 mai 68. Pourquoi pas? Ça nous intéresse beaucoup. Antoine Viossa et Mathieu Ribaud étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouka et Koyen Nguyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert attend avec impatience vos messages dans le répondeur de la BACJ. J'y suis dans le numéro, le 01 56 40 37 37.